On va continuer ces entretiens avec, pour cela, le professeur Bruno Dubois. Donc, pour commencer, merci de l'accueillir. Vous êtes donc membre de l'Académie de médecine, également donc directeur de la Fondation. L'Alzheimer est une vieille maladie qui a quand même beaucoup progressé, vous l'avez dit tout à l'heure dans le reportage, au niveau de la recherche, en termes également de prévention. Et justement, est-ce que vous pouvez nous faire le point sur les dernières avancées? Et il y aura, je précise, un temps d'échange avec le professeur Bruno Dubois. Donc n'hésitez pas après bien sa petite conférence à poser des questions.
Merci beaucoup et merci d'être venus si nombreux. Il n'y a même pas de place, il n'y a plus de place assise. Bon, écoutez... C'est un grand plaisir d'être là et c'est un grand plaisir de parler devant une assemblée nombreuse. C'est beaucoup plus amusant et intéressant que quand il y a 3-4 personnes. Donc merci d'être venu, de ce beau temps, de passer quelques minutes avec nous et en compagnie des médecins qui vont suivre et qui ont beaucoup de choses très intéressantes à vous raconter. Et je les remercie aussi de s'associer à notre projet. Voilà. Alors je commence, voyez, par une petite publicité sur un livre que j'ai écrit il y a quelques mois, et je m'amuse à le présenter parce que le titre de ce livre, c'était « Alzheimer, la vérité sur la maladie du siècle ». Et sachez que il a été édité 2 semaines avant le Covid. Alors évidemment, c'était pas très très heureux d'appeler ça la maladie du siècle, puisque est arrivé ce que nous avons cru être la maladie du siècle, c'est-à-dire le Covid. Et en réalité, c'est intéressant parce que finalement, le Covid, dans une certaine mesure, c'est un peu du passé. Et on voit que les problématiques de fond, celles qui étaient présentes avant, demeurent les problématiques du moment. Et j'ai la coutume de dire que notre maison vieillit et nous regardons ailleurs, paraphrasant quelqu'un que vous connaissez. Voilà. Alors pourquoi finalement c'est la maladie du siècle? Eh bien, tout simplement, c'est très simple, parce que elle est la conséquence de l'allongement de la vie. L'allongement de la vie, c'est une conquête, et il faut en être fier. Les sociétés occidentales ont bien travaillé et ont trouvé des solutions pour retarder, je dirais, pour maîtriser un certain nombre de maladies, ce qui fait que nous allons tous, en bonne santé vers l'âge où cette maladie devient naturellement fréquente. Sachez que, par exemple, au début du 19e siècle, l'espérance de vie était de 40 ans, je crois. De 40 ans. Elle est aujourd'hui de 85 ans en moyenne. C'est-à-dire qu'on a doublé l'espérance de vie en 2 siècles. Et une petite fille qui naît aujourd'hui, si vous avez la chance d'avoir une petite fille qui naît, eh bien, elle va vivre 90 ans. À 90 ans, on a 40 chances ou risques sur 100 d'avoir la maladie d'Alzheimer. Donc, une petite fille qui naît, elle a 4 chances sur 10 d'avoir la maladie d'Alzheimer. Voilà, tout ça pourquoi? Simplement parce qu'elle va vivre longtemps, et c'est tant mieux. Mais évidemment, cette longévité nous expose à un risque. Voilà. Alors, on l'a dit, madame, vous l'avez dit, c'est une maladie de la personne, mais c'est aussi une maladie de la famille et de la société. Et ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que ce risque augmente de façon exponentielle avec l'âge, 1 million ou 1,2 million de patients en France. Et surtout, si vous voulez, c'est devenu un problème majeur de santé publique en raison du vieillissement de la population générale. Alors, on va parler maintenant de la maladie d'Alzheimer, et je vais vous expliquer en quoi les choses ont énormément bougé au cours de ces 20 dernières années. Finalement, c'est dans les 20 dernières années qu'il y a eu des progrès considérables dans cette maladie. On va partir du début. En 1901 ou 2, je crois, cet homme rencontre cette femme. Cet homme, c'est Alois Alzheimer, rencontre cette femme, c'est Auguste D. Il la suit. Et vous voyez, ça, c'est intéressant parce que ces deux documents sont intéressants. D'abord, la photo à gauche, c'est Alzheimer qui a pris la photo de cette femme. Elle avait 52 ans quand elle vient dans son service. Vous voyez, elle a 52 ans là. Pour vous rappeler que Alzheimer a décrit une maladie d'une femme jeune. Et en médecine, on a appris à associer la maladie d'Alzheimer à une forme jeune de ce qu'on appelle une démence. On parlera après de ce que veut dire le mot démence, mais l'Alzheimer, c'est une démence jeune. On appelait ça la démence pré-sénile, avant 65 ans. Et puis, il y a d'un autre côté, et vous le savez, la démence sénile, celle, le gâtisme qu'on a tous connu chez des grands-parents quand on était plus jeune. Eh bien, en 1976, un médecin américain s'est rendu compte que ces deux maladies, finalement, étaient les mêmes, c'est-à-dire qu'elles avaient les mêmes symptômes, les mêmes lésions dans le cerveau, les mêmes déficits biochimiques. Et donc, on a dit, mais puisque c'est la même maladie, on va inclure dans le terme de maladie d'Alzheimer la démence sénile. Et d'ailleurs, au début, on appelait ça la démence sénile de type Alzheimer. Tout ça pour vous dire que la maladie d'Alzheimer, qui était une maladie très rare, qui est une sorte de niche, qui avait relativement peu qui concernait relativement peu de patients, est devenue une maladie extrêmement fréquente. Vous voyez, et ça explique, si vous voulez, parfois on nous pose cette question, mais quel est le rapport entre maladie d'Alzheimer et la démence sénile? Ben, finalement, c'est la même maladie, puisqu'on a élargi le terme de maladie d'Alzheimer à la démence sénile. Alors, ce qui est très intéressant, et je vais partir de ça, vous allez voir les progrès qu'on a fait depuis, c'est voilà la description par Alzheimer de la maladie de cette patiente qu'il a suivie jusqu'à son décès. Donc, il a bien décrit les symptômes, et puis il est allé jusqu'à la vérification cérébrale. Il a coupé le cerveau de cette patiente, et il a décrit les deux lésions qui caractérisent cette maladie. Donc, finalement, la maladie d'Alzheimer, c'est l'association de deux choses. Un syndrome clinique, d'accord, qui associe des troubles cognitifs, des troubles comportementaux, des troubles psychiatriques, d'un côté, et de l'autre côté, c'est la présence de deux lésions qu'il a décrites dans le cerveau. C'est très simple, c'est les deux seuls mots médicaux dont je vais vous parler. C'est les lésions amyloïdes et les lésions tau, T-A-U. Voilà. Et il a dit, voilà, la maladie d'Alzheimer, c'est ça plus ça. Alors, par la suite, si vous voulez, on a été très, 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 très embêtés parce qu'on ne peut pas accéder à ça. On ne peut pas accéder aux lésions du vivant du patient. Donc, on ne pouvait faire le diagnostic qu'un diagnostic de probabilité. On n'a pas la preuve. Et pendant, moi, au début de mes études médicales et pendant les premières années de mon exercice médical, eh bien, on disait c'est une probable maladie d'Alzheimer parce qu'on ne peut pas le vérifier. Donc le diagnostic... Après, si vous voulez, en l'absence de lésion, se faisait de la façon suivante. On le faisait en deux étapes. On disait, bon, c'est une démence. Parce que ça, à l'époque, c'était défini comme une démence. Donc, c'est une démence. Qu'est-ce que c'est qu'en médecine, une démence? Une démence, c'est une atteinte cérébrale suffisamment sévère pour retentir sur l'autonomie. Et dément, en médecine, non pas un sujet qui est fou, non pas un sujet qui perd la raison, c'est un sujet qui n'est plus autonome. Moi, je suis autonome dans mes déplacements. Je suis venu de Paris en train, tout seul. J'ai pris le tramway, François Mitterrand. Je suis descendu de gare maritime, voilà, comme un grand, tout seul. Je suis autonome. Et nous sommes tous plus ou moins autonomes dans nos déplacements, dans notre gestion de notre budget, dans la prise de nos médicaments ou dans la manipulation du téléphone. Voilà, vous voyez, sur des petits gestes de la vie quotidienne, on est autonome ou on ne l'est pas. Si on a besoin d'aide pour prendre ses médicaments ou pour se déplacer, eh bien, ça veut dire qu'on a atteint un seuil de dépendance qui détermine ce qu'on appelle en médecine la démence. Donc, pour nous, la démence, c'est quelqu'un qui n'est plus tout à fait autonome dans les activités de la vie quotidienne. Donc, ça, c'est comme ça qu'on faisait le diagnostic avant. On disait que ce sujet a une démence. Alors maintenant, quelle est la cause de cette démence? Mais comme on ne pouvait pas vérifier le cerveau, on disait par élimination, bon, allez, il n'a pas de tumeur, il n'a pas d'infection, on lui faisait la ponction lombaire, il n'a pas de maladie inflammatoire, il n'a pas d'accident vasculaire. Eh bien, c'est une, par exclusion, c'est une démence de type Alzheimer. Voilà où on en était jusqu'à il y a 20 ans, comme je vous l'ai dit. Et puis, depuis 20 ans, les choses ont complètement changé. Et je vais maintenant vous l'expliquer en 7 ou 8 points. Alors, le premier point, c'est qu'on connaît maintenant très bien la progression des lésions. À mon époque, quand j'étais jeune, on m'avait dit « il y a autant de maladies qu'il y a de malades ». Pas du tout, c'est pas vrai du tout. Il y a une maladie d'Alzheimer, je pense que Claire Montagnard partage cette impression. Je ne sais pas ce qu'elle vous dira, mais moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Il n'y a qu'une seule maladie d'Alzheimer, en gros, et dans 80%, 85% des cas, elle débute ici par des lésions dans une petite région du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Alors, c'est très, très, très important. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc, ça commence par une maladie de l'hippocampe. Et ça va rester longtemps au niveau de cette région hippocampique. Et puis, pardon, ça va progresser, vous voyez, les lésions vont progresser vers l'avant, vers la région frontale, puis après vont envahir l'ensemble du cerveau. Donc, pour nous, maintenant, il y a deux phases dans la maladie d'Alzheimer. Il y a une phase où c'est limité au niveau de l'hippocampe et où il n'y a pas encore de démence, parce que la démence est la conséquence de la diffusion des lésions à l'ensemble du cerveau. Donc, il y a un premier stade qui va durer 10, 12, 13, 15 ans. Et c'est ce qu'on voit maintenant, parce que cette phase, on l'a décrit, et nous avons participé à cette description, on a appelé ça la phase prodromale, c'est-à-dire la phase de prodrome, c'est avant la démence, c'est la phase prédémentielle. Et bien cette phase, qui se caractérise par des troubles de mémoire, relativement isolés, est une phase intéressante, parce qu'elle est relativement longue. Et vous allez voir l'intérêt juste après. Et puis, alors, secondairement, évidemment, suite à la position des lésions à l'ensemble du cerveau, eh bien on va avoir d'autres troubles qui vont apparaître, des troubles du jugement, des troubles du langage, des troubles de la reconnaissance, des troubles psychologiques, psychiatriques, des modifications du caractère, du comportement, et ça débouche sur la démence, et là, c'est la phase démentielle. Alors, donc, moi, ce qui nous intéresse, si vous voulez, c'est les phases de début, c'est ces phases liées à l'atteinte hippocampique, liées à des troubles de mémoire. Et là, évidemment, quand on dit ça, il y a dans cette salle... quelques cheveux blancs et des gens qui se disent « Attends, la démence, la mémoire, c'est quand même un sujet un peu délicat parce que j'ai l'habitude de poser la question « Qui ne s'est jamais plaint de la mémoire ?» Que ceux qui ne se sont jamais plaints de leur mémoire lèvent le doigt. Il y a un doigt levé ici, mais à part ça, personne n'a levé le doigt. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si c'est la majorité, hein, parce que apparemment, c'est que c'est la norme. Donc il est normal de se plaindre de sa mémoire. Et il n'est pas normal de ne pas se plaindre de sa mémoire. Donc, non mais la plainte de mémoire est un phénomène banal. Et c'est toute la difficulté, c'est de faire la part des choses entre la plainte banale que nous avons tous. Moi le premier, j'ai cherché toute ma matinée les lunettes, pas celles-là, mais les vraies lunettes que moi je ne les ai pas trouvées, voilà. Comme je le dis, moi, je fais de la recherche. Voilà. Bon, on est tous à faire de la recherche. Hein. Et la vraie atteinte de mémoire. Alors, ce qui se passe, c'est un travail intéressant. J'oublie tout, est-ce grave ? Et on a fait un travail, il y a maintenant plusieurs années, simplement où on s'est intéressé à l'intensité de la plainte. D'accord ? L'intensité de la plainte. Là, je pense qu'il y a des gens ici qui se plaignent pas mal. Bon. Et vous voyez, je ne rentre pas dans les détails de la description, mais simplement, je voudrais vous montrer deux courbes. Regardez celle du haut, ce sont les gens qui se plaignent beaucoup, puisque vous voyez, ça va de 0 à 100, à 100, 180 ou 160. Alors, ils se plaignent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce sont des gens, effectivement, qui sont très, très plaintifs. Leur mémoire n'est pas bonne du tout, apparemment. D'accord ? Hop, très bien, vous voyez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des sujets déprimés. Et leur MMS, alors c'est le seul terme médical que je vais vous donner, c'est, le MMS, c'est ce qu'on appelle, c'est un peu le thermomètre du fonctionnement intellectuel et de la mémoire, c'est pour faire simple. Ils ont un MMS à 29 sur... On a tous un MMS aux gens autour de 29 ou 30. Là, le maximum, c'est 30, mais c'est très facile comme test, et on a tous entre 29 et 30. Ces sujets-là, vous voyez, ils ont, c'est intéressant, parce qu'ils ont des performances normales, ils ont 29 sur 30 en moyenne, mais vous voyez qu'ils se plaignent énormément. C'est une très, très grosse plainte. Ils sont dépressifs. Très bien. Et puis au-dessous, vous avez une droite qui est complètement plate. Vous voyez. Et là, ce sont des gens qui ont une maladie d'Alzheimer. Ils ont une maladie d'Alzheimer. Et d'ailleurs, leur score au MMS est bas. Ils ont 20 sur 30. Et ils ne se plaignent pas. Ce qui m'avait fait dire à l'époque, plus on se plaint de sa mémoire, moins on a de risques d'avoir la maladie d'Alzheimer. Et quand je... Voilà. Ça, c'est toujours mon petit succès. Quand je dis ça, et je sens un peu de détente dans la salle. Voilà, mais c'est important. On ne va pas rentrer dans le détail parce que je n'ai pas le temps, mais peut-être que Claire abordera ce sujet-là. Je ne sais pas si tu vas voir ça. Mais c'est quand même une vraie problématique. Et la consultation de mémoire de Nantes, que Claire Bertonnière la dirige très bien, justement, c'est ça leur métier, c'est de faire la part des choses entre eux. les troubles de l'attention et les troubles de mémoire. Je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est long. Mais simplement, sachez que pour qu'on se rappelle d'une information, il faut que cette information passe par trois stades différents. Il faut d'abord qu'elle soit bien enregistrée. Il faut être attentif. C'est notre système perceptif, visuel ou auditif. On voit ou on entend. Il faut bien capter l'information. Si on n'est pas attentif, si on est déprimé, si on est anxieux, si on a des troubles du sommeil, justement, dont on va nous parler après, eh bien, on ne va pas bien faire attention. Et donc, ce qu'on va envoyer vers l'hippocampe dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette structure qui est touchée dans la maladie d'Alzheimer, la première structure touchée, ce qu'on va envoyer vers l'hippocampe comme un ballon de rugby, c'est l'occasion d'en parler, eh bien, l'hippocampe est cassé. Ça ne rentrera pas dans le cerveau. Voyez, regardez. Voyez la petite boule bleue, là. Eh bien, c'est l'hippocampe. Donc, l'information est envoyée vers l'hippocampe. L'hippocampe est cassé. Ça ne rentre pas dans la banque. Ça ne va pas dans le cerveau. Donc, ce n'est pas stocké dans le cerveau. Donc, ce sont des patients qui sont plus capables de mettre des choses dans le sac, mais qui ont toute leur vie mis des choses dans le sac. Si bien qu'on a ce paradoxe qui est assez classique, des familles qui nous disent « ça ne doit pas être bien grave », ils se rappellent le nom de sa maîtresse d'école. Bien sûr, sa mémoire a fonctionné. Mais est-ce qu'il se rappelle ce qu'il a mangé la veille ? Mais non, il se rappelle. Il se rappelle de son mariage. Mais oui, madame, mais est-ce qu'il se rappelle de ce qu'il a fait la veille ? Mais non, sa mémoire est bonne. Puisque, oui, et c'est le paradoxe, c'est que ce sont les gens qui se rappellent des choses anciennes et qui ne peuvent pas se rappeler des choses récentes, puisque justement, ils ne peuvent plus rien mettre dans la banque. Vous voyez ? C'est ça l'idée de l'atteinte de l'hippocampe. Et puis après, bon, bien sûr, il faut récupérer l'information. Et là aussi, ça demande l'activation de stratégies qui dépendent du lobe frontal. Et au cours du vieillissement normal, on a un petit peu plus de mal à récupérer la chose. Mais on sait qu'on le sait. Ah, c'est comme ça. Mais oui, je sais, c'est comme ça. Je vais sortir, ça va me revenir. Toujours comme ça. Ce qu'on appelle le syndrome du bout de la langue. Je sais que je sais, mais ça reviendra. Et ça, c'est pas gênant. Donc nous, et ce que fait Claire, c'est qu'elle fait la part des choses. Quand quelqu'un vient et se plaint de sa mémoire, et si vous avez une inquiétude, il faut aller à la consultation de mémoire, on vous fera des tests. Et les tests font la part des choses. Est-ce que c'est un trouble de l'attention ? Est-ce que c'est un trouble de la récupération, vieillissement ? Ou est-ce que c'est un trouble du stockage, maladie d'Alzheimer, parce que l'hippocampe est cassé ? Alors, deuxième grande nouveauté depuis 20 ans, ces fameuses lésions qu'on ne pouvait pas voir, maintenant on peut les voir, on peut y accéder très facilement par deux types d'examens, soit un PET scan, comme ici, vous voyez. Et alors là, regardez, c'est très facile, la médecine c'est facile. Regardez, on injecte une substance et cette substance va se fixer au prorata de l'intensité des lésions. Et vous avez là la grille de lecture. Là, quand c'est bleu, c'est que c'est froid. Quand c'est rouge, c'est que c'est chaud. Là, vous avez un sujet contrôle. Ça, c'est le cortex, vous voyez, c'est tout, l'écorce tout autour. C'est froid, il n'y a pas de lésion. C'est froid. Et puis là, vous avez un sujet, malheureusement, Alzheimer disease, AD. Là, vous voyez qu'il a la maladie, il a des lésions partout. Voilà. Donc aujourd'hui, et on peut aller à Nantes ce soir, si vous voulez venir avec moi, on va nous faire une petite injection et on saura si on a ou pas les lésions de la maladie d'Alzheimer. Vous voyez la différence, comme ça a bougé par rapport à Alzheimer. Avant, on était obligé de couper le cerveau. Maintenant, on fait une petite injection, on fait cet examen. Mais il y a même plus facile maintenant, parce que ça coûte cher, c'est compliqué, puis on nous interdit Le ministère ne veut pas qu'on le fasse. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, on peut maintenant accéder à cette information simplement par une ponction lombaire. On fait une piqûre dans le dos, une petite ponction lombaire, c'est rien du tout, c'est un geste facile. Et on récupère des informations des lésions cérébrales. La protéine tau, la protéine amyloïde, on l'a maintenant dans le liquide céphalo-rachidien. Et sachez qu'on est en train de travailler grâce à l'AFRA. Grâce à l'AFRA, on travaille justement sur les biomarqueurs plasmatiques. On est en train, et là on est en train de le sortir clair dans des résultats qui sont extrêmement, extrêmement excitants, sur la tau phosphorylée en 217, on peut, dans le sang, maintenant, avoir des informations qui sont assez bien corrélées avec ce qui se passe dans le cerveau. Donc voyez comme ça va vite, comme ça bouge. Troisième chose, ces biomarqueurs améliorent le diagnostic. Je vous avais dit, les symptômes cliniques, et d'un autre côté, les lésions. D'accord ? Donc, on ne pouvait pas accéder aux lésions. Mais si, maintenant, on peut accéder, puisqu'on a les biomarqueurs. Donc, on a fait les travaux, je passe là-dessus, et on a maintenant la possibilité, on a l'entité clinico-biologique. Quatrième information intéressante, ces fameux biomarqueurs nous permettent maintenant de mesurer l'efficacité des médicaments, puisqu'on va pouvoir mesurer ce qui se passe dans le cerveau. Tiens, je vais vous montrer trois résultats récents qui concernent trois médicaments qui sont actuellement en développement. Je vais vous donner les noms, l'aducanumab, le lecanumab et le donanemab. Vous avez ici la concentration des lésions dans le cerveau au moment où les gens rentrent dans l'étude. C'est une étude qui dure un an et demi. Vous voyez, ils ont en moyenne 100, vous voyez, c'est le baromètre, 100, on va dire, de niveau de lésion. Après un an et demi, écoutez bien, 80% des lésions amyloïdes du cerveau ont disparu. On a aujourd'hui des médicaments qui nettoient 80% des lésions amyloïdes du cerveau. C'est extraordinaire. À tel point que ce laboratoire qui développe le donanemab a décidé de refaire une évaluation de la concentration des lésions dans le cerveau un an après. Un an après, parce qu'il dit « je ne vais pas maintenir un traitement pour des lésions qui ont disparu ». Donc on ne va plus faire des études sur un an et demi. Après un an, on va faire une nouvelle photo. Si les lésions ont disparu, on arrête le traitement. Alors vous allez me dire « mais ça y est, on a trouvé ». Alors, attendez, un peu plus compliqué, parce qu'il faut lire ce qui est écrit au-dessous. Mais donc ils sont actifs sur les lésions, mais ils n'agissent pas sur les symptômes des patients avancés. Et c'est l'explication qu'on avait et qu'on a proposée. On s'est dit, mais peut-être que ces médicaments ne sont pas actifs parce que les malades sont trop engagés dans leur maladie, il y a trop de lésions, le processus s'est autonomisé, et donc finalement, on ne peut rien faire. Donc c'est la raison pour laquelle les laboratoires sont venus vers la phase prodromale, la phase de début dont je vous ai parlé tout à l'heure, en disant, mais attendez, peut-être qu'effectivement, il ne faut pas étudier ces médicaments chez les gens déments. Il faut peut-être étudier ces médicaments chez des gens qui ne sont pas encore à ce stade de sévérité. Et là, ça y est, c'est en train de sortir. Le lecanemab est en train de montrer, vous voyez, qu'il... Alors, on ne crie pas au miracle. Vous voyez, par rapport à la courbe du placebo, des gens qui s'aggravent, les gens traités s'aggravent, c'est vrai, mais s'aggravent moins. Donc ça veut dire que ça y est, on est en train de... Vous voyez, on est en train de comprendre un peu et de remonter un peu, à dérouler le fil, vous voyez. Alors, vous comprenez ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'ils prennent un médicament, ils s'aggravent. Et quand même, il faut comprendre. C'est-à-dire qu'on ne bloque pas, on ne guérit pas, on ne revient pas en arrière, mais on ralentit. Et ce qui est intéressant, c'est ce delta. Et il faut travailler sur ce delta parce qu'on pense que si on continue, le delta sera encore plus grand. Vous voyez, donc, voilà, c'est une première victoire. C'est une première victoire. C'est compliqué, il y a des effets secondaires, tout ça, on n'a pas gagné. C'est une première bataille, je dirais, qui est gagnée. Alors maintenant, il faut savoir, et on ne va pas rentrer dans les détails, si l'Europe nous autorise ce médicament. Là, il y a des enjeux réglementaires qui nous dépassent. Les États-Unis l'ont validé, mais on attend la décision de l'Europe. Et je sais que Claire est très impliquée aussi dans tous ces process. Une information que vous ne connaissez pas et qui est très très importante par rapport à l'avenir, c'est qu'on a maintenant la preuve que plusieurs années avant le début des symptômes, les biomarqueurs sont déjà modifiés. Vous voyez, il y a une augmentation de la protéine tau, une augmentation des dépôts d'abêta. Donc c'est-à-dire que les lésions précèdent la survenue des symptômes. Aha. Donc, à partir de là, il y a un nouveau concept qui apparaît. Je vous ai parlé au début, je dis qu'il y a la démence. Ça, c'est Alzheimer. Puis on a introduit le concept de, stade prodromal. C'est-à-dire que c'est avant la démence, mais ce sont des sujets qui sont malades. Et maintenant, il y a un nouveau concept. C'est des gens qui sont normaux, mais qui seraient peut-être porteurs des lésions. Et donc... peut-être à risque de développer la maladie, ou peut-être même à un état préclinique. Voilà. Alors, évidemment, vous voyez, le profil clinique, vous voyez ce que je vous montrais tout à l'heure, est différent, mais le profil biomarqueur les réunit. Vous voyez, ils sont tous positifs, avec ou sans symptômes. Septième information qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a des facteurs
dont on est en train de montrer qu'il serait protecteur du vieillissement cognitif. J'y crois moyennement. Je crois que leur effet reste modéré. Enfin, il vaut mieux, évidemment, traiter une hypertension artérielle, traiter une obésité, traiter le tabagisme, éviter le diabète. Il vaut mieux avoir un bon niveau d'éducation. Bien sûr, ne pas lutter contre un trouble de l'audition. Il vaut mieux, et surtout probablement ça, l'interaction sociale, le fait de voir des gens, le fait de participer à des réunions comme ça, ça stimule, c'est très bien. C'est vrai, c'est sûr. Mais c'est bon pour tout, c'est bon contre le cancer, c'est bon pour tout. Et aussi pour la maladie d'Alzheimer, ça retarde le vieillissement cognitif, on est d'accord. Mais ça jouera de façon assez marginale. Moi, ce que je crois, si vous voulez, c'est que la grande question, c'est, et je vais terminer là-dessus, si on se focalise sur ces sujets âgés, normaux, mais qui sont biomarqueurs positifs, si vous m'avez bien suivi, on a des médicaments qui nettoient les lésions. Mais attendez, la solution, elle est là. Il va falloir repérer ces gens qui ont des lésions, qui n'ont pas encore les symptômes. Avec les médicaments qui nettoient les lésions, hop, on nettoie les lésions et on retarde l'entrée dans la maladie. Vous m'avez suivi. Vous y êtes. C'est, sur le papier, c'est génial. Mais en pratique, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il faut encore démontrer que le fait d'avoir des lésions, alors qu'on n'a pas encore les symptômes, s'accompagne forcément de la survenue de la maladie. Parce qu'il n'est pas question de traiter des gens pour une maladie qu'ils ne développeront peut-être jamais. Et les Américains ont décidé, et ils ont dit, bon, le fait d'avoir des lésions, c'est qu'on a la maladie, donc on traite. Nous, on dit non, pas forcément. Il faut faire attention. Parce qu'il ne faut pas traiter des gens pour une maladie qu'ils n'auront jamais. C'est la raison pour laquelle on a monté une étude qui s'appelle l'étude INSIGHT. Et j'ai le plaisir de saluer ici un monsieur, ce n'était pas un patient, qui a participé à cette étude et qui a donné beaucoup de son temps pour participer. Donc il a fait partie des 320 sujets qui ont été suivis. On lui a fait des tas de misères, on lui a fait des électroencéphalogrammes, on lui a fait des prises de sang, on lui a fait des tests, vous pouvez imaginer tout ce qu'on peut faire à l'hôpital. Et on a suivi ce monsieur et d'autres qui avaient, pour certains d'entre eux, des lésions de la maladie. Mais ils étaient parfaitement normaux quand ils ont été introduits dans l'étude. Et on s'est dit, on va voir comment ça évolue. Et on a vu qu'en réalité, sur les 88 qu'avaient les lésions, c'est-à-dire 28% avaient des lésions dans le cerveau, sur les 88, seuls 16 ont évolué vers une maladie d'Alzheimer prodromale. Ce qui veut dire que 72 n'ont pas évolué. Ce qui veut dire que seuls 20% ont évolué alors qu'ils avaient déjà 76 ans au début dans l'étude. Vous voyez ? Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus compliqué et qu'il va falloir bien maîtriser, bien comprendre ce qui se passe pour ne pas se tromper et ne traiter éventuellement avec ces médicaments que ceux qui sont à haut risque de développer la maladie. Alors, je passe sur les détails. Simplement, on est arrivé à l'idée qu'il y avait des mécanismes de résilience cérébrale qui fait qu'on est capable de lutter contre le processus pathologique en maintenant la fonction par des mécanismes variés. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Donc, c'est à la suite de ça que je me mobilise pour créer des centres de prévention du vieillissement cognitif. Parce que c'est un problème de santé publique, parce qu'on a des marqueurs diagnostiques et qu'on peut repérer donc ces gens qui sont à risque, parce qu'on a montré que la prévention était peut-être efficace, mais surtout parce que les traitements arrivent et qu'il va falloir donc définir le risque de ces gens. Et voilà comment le modèle que je vois est clair. Je pense qu'on pourra en parler, parce qu'il faudra le faire partout. L'idée est la suivante. Pour moi, c'est l'avenir. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait, c'est que on puisse avoir des sujets comme ce monsieur, comme ce monsieur qui est venu à l'époque et qui a participé à cette étude, et qui donne un peu de leur temps, voilà, des sujets, vous voyez, soit des patients au stade précoce, soit des sujets, des sujets à risque, soit des sujets contrôle, qu'importe, à risque parce qu'ils sont biomarqueurs positifs, et puis on les suit dans des cohortes, vous comprenez, dans des cohortes. Et puis à partir de ces cohortes, on va élaborer des bases de données. Et ces bases de données vont nous permettre de préciser le risque.
et on va faire des algorithmes de prédiction. On va dire, voilà, si on a un parent touché, qu'on a 75 ans, qu'on a un facteur de risque vasculaire, qu'on a un APOE3, eh bien, on a 40% de risque de développer la maladie dans les 20 ans. Bon. Ou alors, on a 90% de développer la maladie dans l'année qui vient. Ah, ça, c'est un peu différent. Et à partir de là, quand on aura ces algorithmes de prédiction, quand on aura des sujets qui, individuellement, viendront dans nos centres de prévention, ils nous demanderont à ce qu'on leur fasse une évaluation de leur risque cognitif. Et on appliquera les algorithmes de prédiction qui nous permettra, à ce moment-là, de décider de faire certaines interventions, comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure, parmi toutes les interventions qui étaient listées, ou de lutter contre leurs facteurs de risque modifiables s'ils en ont, ou de leur proposer des traitements. Voilà. Donc, rapidement, j'ai voulu vous brosser un peu la problématique de la maladie d'Alzheimer en partant de la description d'Aloïs Alzheimer, vous voyez, qui était une description d'un syndrome clinico-pathologique, et grâce aux biomarqueurs, on a maintenant une entité clinico-biologique, et les biomarqueurs ont complètement changé la donne, parce qu'ils nous permettent d'améliorer le diagnostic, maintenant on peut faire un diagnostic de certitude, de suivre les médicaments et de s'intéresser à une nouvelle population qui est cette population des sujets âgés, plus ou moins âgés, normaux, mais qui ont ces facteurs de risque parce qu'ils ont ces biomarqueurs. Et peut-être que c'est l'avenir, c'est d'être dans une sorte de prévention pharmacologique, de repérer ces sujets, d'évaluer leurs risques et de leur permettre de bénéficier de ces médicaments dont on vient de montrer qu'ils étaient très actifs sur les lésions cérébrales. Je vous remercie de votre attention.
Merci, professeur Dubois. Est-ce que vous avez des questions dans la salle au professeur Bruno Dubois ? N'hésitez pas à lever la main, il y a une personne qui va passer avec un micro. Allez-y, madame, là-bas. Il y a un micro qui va arriver. Moi, j'en ai une en attendant. De la part donc, de Didier Vincent, qu'en est-il de la place de la protéine Tau avec les dernières recherches et les désillusions également sur l'influence de la protéine botamine? Cette déviance a-t-elle encore sa place?
Oui, elle a certainement sa place, puisque c'est elle qui corrèle avec les symptômes. Donc, c'est, si vous voulez, dans la cascade telle qu'on l'envisage, c'est la présence des lésions amyloïdes dans le cortex qui entraîne une sorte d'emballement de la protéine Tau qui va désorganiser les neurones et qui est responsable des symptômes. Donc la protéine Tau est un intermédiaire absolument obligé. Le problème, c'est que les antitaux, les médicaments contre la Tau, n'ont pas montré l'efficacité qu'on a observée avec l'anti-amyloïde. Comme si finalement, en jouant sur l'amyloïde, c'est-à-dire en jouant avant l'étape de l'embrasement de la Tau, on avait une efficacité supérieure que de taper déjà sur la Tau. Mais je pense que toutes ces discussions, si vous voulez, sont à revoir à l'aune de la précocité du diagnostic. Je crois que plus on sera précoce, plus on aura des chances de démontrer l'efficacité des traitements.
Merci pour votre réponse. Allez-y, madame.
Bonjour. Donc, moi, je suis Sylvie Bourget, la présidente de l'association Mémoire 2, productrice de la pièce dont madame Lefranc parlait tout à l'heure. C'est la ritournelle. Ça fait donc 35 fois qu'on présente la pièce et on la présente depuis peu à des scolaires donc, qui sont en ASSP. Et donc, on fait des débats en fin de représentation.
Votre question.
Là, elle arrive. Donc, les jeunes nous posent la question, parce qu'il y a un débat par une psychologue à la fin. Les jeunes nous demandent, quand on voit que la maladie d'Alzheimer touche des gens de plus en plus jeunes et que c'est de plus en plus précoce, comment fait-on pour les inciter à se faire détecter? C'est-à-dire, vous parliez de détection tout à l'heure. Voilà, la question, c'est comment on les emmène là-bas, quoi.
Merci, madame. Merci de ce que vous faites et merci de cette question. Écoutez, je pense que la maladie ne survient pas à ces gens de plus en plus jeunes. Non, c'est une vision qui ne correspond pas à la réalité. Ce qu'il y a, c'est qu'on la détecte mieux et qu'avant, probablement, on n'imaginait pas que quelqu'un qui perde la tête à 45 ans ou 50 ans ou 55 ans puisse avoir la maladie d'Alzheimer. Donc on les considérait un peu comme des malades psychiatriques ou on ne les prenait pas bien en charge. Donc c'est simplement la meilleure connaissance de la maladie qui fait qu'on est capable maintenant de les reconnaître mieux et de les catégoriser mieux comme ayant la maladie d'Alzheimer. Donc je peux pas dire que, et on ne peut pas dire que la maladie est plus fréquente, mais il y a une sorte de développement des capacités de repérage qui fait que la maladie paraît... Effectivement, on est étonné de voir qu'il y a des jeunes qui viennent dans nos consultations de neurologie. On voit beaucoup maintenant de malades un peu plus jeunes qu'avant, c'est vrai, c'est vrai.
Merci, docteur, pour votre présentation. C'est une question d'ordre très général. Est-ce que la qualité de vie, le stress ou non, l'environnement, l'alimentation, la santé en général, tout cela, est-ce que ça peut avoir une influence sur le développement de la maladie d'Alzheimer?
Très bonne question. Merci beaucoup de la poser, parce que c'est une question qui est un peu récurrente. Et je me permets simplement d'apporter, un petit rectificatif. Il faut dissocier deux choses. Il faut dissocier la démence, d'accord, et toutes les causes de démence, et notamment les causes vasculaires, et la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie dégénérative très particulière, qui est due à la présence de ces lésions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, il est certain que, d'autant plus que les gens sont âgés, il va y avoir ce qu'on appelle des comorbidités, et que, c'est un peu compliqué, mais que vous avez effectivement une composante vasculaire qui peut se surajouter. Et donc, il est très important de contrôler ces facteurs de risque vasculaire, l'hypertension artérielle, l'obésité, le diabète, la sédentarité, etc., pour diminuer cette composante vasculaire qui, évidemment, va décompenser les lésions dégénératives qu'on a par ailleurs. Donc, il faut dissocier deux choses. Il y a les facteurs de risque des démences en général, et il y a les facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer en particulier. Mais au niveau épidémiologique, et pour nous-mêmes, ce qui compte, c'est la démence. Bon. Et donc, vous avez raison, il faut avoir une alimentation saine, il faut avoir une activité sportive, il faut avoir des interactions sociales, il faut lutter contre les facteurs de risque vasculaire. Tout ça, c'est bon, parce que ça retarde le déclin cognitif, c'est certain.
Bonjour professeur Patrick Kounot. Vous avez bien expliqué l'évolution de la connaissance de la maladie et donné beaucoup d'espoir avec les traitements qui sont en cours de recherche actuellement. Par contre, vous n'avez pas du tout parlé de la génétique. Est-ce parce que c'est complètement hors sujet ou parce que ça n'a pas été étudié?
Ça a été très étudié et ce n'est pas du tout hors sujet. Vous avez tout à fait raison. Vous avez raison, j'aurais pu rajouter une slide, je suis d'accord, sur cette actualité qui est très 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 chaude en ce moment. De façon très schématique, il faut dissocier deux choses. Il faut distinguer deux choses. Premièrement, il y a des formes exceptionnelles de maladie d'Alzheimer qui sont génétiques et qui sont liées à la mutation d'un gène qui se transmet de façon dominante. C'est-à-dire que quand vous avez cette maladie, généralement, elle survient avant 60 ans, donc aux alentours de 50 ans, mais votre mère ou votre père l'a eu et est mort au même âge, à 50 ans, et son père ou sa mère l'a eu. C'est-à-dire que vous avez une transmission qui est autosomale dominante d'une mutation à pénétrance complète. Et là, ce sont des cas rarissimes, ils sont tous identifiés en France. Il n'y a aucun risque que quelconque ici, dans la salle, puisse avoir une maladie génétique. En revanche, alors, une fois qu'on a dit ça, vous avez autre chose, qui est l'agrégation familiale. Il y a des familles dans lesquelles la maladie paraît un peu plus fréquente que dans d'autres, et c'est vrai, même parfois beaucoup plus fréquente que dans d'autres. Il y a deux explications à ça. La première, c'est que ce sont parfois des familles où il y a une grande longévité. Comme je vous ai expliqué que c'était une maladie qui était liée, qui n'était pas due à l'âge, mais qui était liée à l'âge, et qui était donc plus fréquente que les gens sont âgés, pour peu que vous soyez dans une famille où on vit vieux, ce qui est une bonne nouvelle, et tant mieux, eh bien vous augmentez le risque d'arriver à l'âge où cette maladie devient naturellement fréquente. Premier cas. Deuxième cas, on a montré, dans ce qu'on appelle des GWAS, dans des très grandes études, très larges, avec 100 000 sujets, enfin, des énormes études génétiques, qu'il y a des facteurs de risque qui augmentent un tout petit peu le risque. Et parfois, dans des familles, il peut y avoir une association de ces facteurs de risque qui fait qu'une combinatoire fait que la maladie va apparaître un peu plus fréquente que dans d'autres. Mais ce sont des facteurs de risque, c'est pas une transmission génétique de la maladie. Voilà, une réponse un peu complexe, mais ça nécessite qu'on soit à ce niveau de complexité pour bien exposer le sujet.
Allez, encore une question, parce qu'après, il y a aussi le docteur Claire Boutolot-Bretonnière qui va nous parler des maladies apparentées. Et là aussi, il y aura, j'imagine, beaucoup de questions aussi à poser. Voilà. Dernière question, merci madame.
Bonjour docteur. Je voudrais vous poser une question. Vous savez bien que sur l'île d'Okinawa est réputée une île de centenaires. Est-ce que vous avez le taux de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer pour expliquer qu'il y a un risque de corrélation entre la longévité de l'âge avec cette maladie?
Oui, quelle est votre question? Le taux de quoi?
De personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.
Dans cette île.
Du fait que
non, ah non,
c'est
je connais
une
pas.
Île
je connais pas où il y a quelques
centenaires.
Non, non, où il y a quelques centenaires dans cette île, c'est connu. Oui, bah, c'est un... Ce sont des paysans japonais qui vivent un peu en dehors de tout. Enfin, on a un certain nombre d'explications, mais c'est vrai. Est-ce qu'il y a une alimentation particulière? Je connais pas, je peux pas apporter de réponse précise à votre question. Je connais pas le taux spécifique de maladie d'Alzheimer par rapport à la population.
Merci beaucoup, professeur Bruno Dubois. On peut effectivement bien l'applaudir.